Biodiversité samedi, le rendez-vous nature de Nov avec le syndicat mixte de la baie de Bournaz.
Nouvelle année sur Nov FM, nouvelle année de biodiversité samedi, ce 7 janvier, premier samedi de l'année. Nous retrouvons cette émission désormais emblématique du syndicat mixte de la baie de Bourgneuf. Avec chaque mois un thème très précis, un expert aussi pour nous éclairer. Je reçois aujourd'hui François Gossman, bénévole à la LPO de la Vendée, la Ligue pour la protection des oiseaux. Et nous allons parler, François, de l'engoulevent. Bonjour à vous.
Bonjour.
On va parler précisément de l'engoulevent d'Europe, c'est un oiseau évidemment. Bénévole à la LPO, vous êtes passionné d'ornithologie depuis tout petit?
Oui, depuis tout petit. Ma révélation, j'avais 4 ans et une effraie des clochers, la chouette effraie, la dame blanche, est sortie d'un grand massif de lauriers près de notre maison. J'habitais La Rochelle à l'époque, dans un petit coin de campagne en limite de La Rochelle, et ça m'a complètement estomaqué. Et depuis ce moment, donc 3-4 ans, je suis toujours passionné par tous les oiseaux.
Alors vous avez beaucoup voyagé dans votre vie via votre travail dans des grandes forêts aussi du monde. Vous avez approché beaucoup d'oiseaux dans le monde.
Oui, en effet, j'ai travaillé essentiellement sur des oiseaux migrateurs, et la bécasse des bois en l'occurrence, j'en ai capturé et bagué environ 8000, pas tout seul évidemment, en équipe, et j'ai travaillé aussi beaucoup à l'étranger. J'ai fait beaucoup d'expéditions sur la forêt dans l'est de l'Europe, 40 expéditions en taïga, en forêt mixte dans le nord-est de l'Europe. Voilà.
Quel est votre parcours professionnel?
Bon, en fait, j'ai un master en écologie de l'université de Rennes.
Et après cela?
Après cela, eh bien, mon travail à l'ONCFS, donc qui est aujourd'hui l'OFB, que j'ai quitté. Hein, j'ai quitté mon activité professionnelle. Eh bien, j'ai eu l'occasion donc de travailler sur le terrain dans toute la France. Pour capturer, baguer les oiseaux, travailler avec des collègues, et aussi donc de nombreuses expéditions, 60 environ à l'étranger.
Alors on va parler aujourd'hui de l'engoulevent, un petit oiseau. Alors on est en plein hiver, il n'est plus vraiment sur le territoire, mais on va quand même l'évoquer. C'est un petit oiseau ou un moyen oiseau?
Alors c'est un oiseau de taille moyenne. Il est très difficile à cataloguer parce que, on va dire, au niveau poids, il se rapprocherait de la tourterelle turque, vous voyez, qu'on voit dans tous nos jardins. Mais, par contre, il a un corps très effilé et très fin. Il a des grandes ailes longues et fines, pointues, une longue queue. Voilà. Et donc, des petites pattes courtes. Et c'est un oiseau vraiment très très original dans le monde de l'ornithologie, le monde des oiseaux. C'est, on peut le mettre en catégorie ovni un peu. C'est un oiseau extraordinaire. Et d'ailleurs, je mets ma main à couper. N'importe quel kidam entre guillemets, voyant cet oiseau pour la première fois, sera scotché devant son comportement, son attitude, son vol, etc. À l'entendre aussi. On va en parler tout ça. Mais vraiment, c'est un oiseau qui sort du commun.
Déjà sa couleur aussi.
Alors voilà, pour le décrire, c'est un oiseau qui est de petite taille, mais enfin de taille moyenne, on va dire. Il fait 60 cm environ d'envergure, hein, vous voyez, d'un bout à l'autre des ailes. Il pèse entre 50 et 100 grammes. C'est un oiseau léger qui a un plumage très soyeux, très doux, parce que c'est un oiseau nocturne qui va voler très silencieusement. Et son plumage est vraiment de gris, de brun, de beige, de couleurs donc très homochromes qui le rendent quasiment invisible au sol. À l'instar d'autres oiseaux comme la bécasse des bois, hein, dont je parlais tout à l'heure, pour lequel j'ai beaucoup travaillé, l'engoulevent est vraiment se confond avec le sol forestier.
Marron, beige, un peu les couleurs de l'automne. Hein, son nom vient, je crois, de son bec, en tout cas de l'ouverture de son bec.
Alors oui, voilà, il a un petit bec, mais une large ouverture qui lui permet de capturer de gros insectes, des insectes nocturnes qu'il va capturer donc au crépuscule, la nuit, en vol essentiellement, jusqu'à 3 km du site où il s'est cantonné. Et aussi, il peut être perché et plongé quand il voit un gros insecte. Ce sont des papillons nocturnes, ce sont des coléoptères, etc.
On va en reparler évidemment de l'alimentation, mais son nom, c'est qu'en gros, on a l'impression qu'il avale le vent quand il ouvre la bouche, le bec.
Oui, c'est ça, engoulevent, ben voilà, qui avale le vent, parce que on le représentait souvent avec en vol, avec le bec largement ouvert, un peu comme pour gober un peu tout. En fait, non, il va l'ouvrir évidemment quand il va capturer un insecte. Mais oui, c'est une des particularités. On l'appelait dans l'Antiquité, vous voyez, il était connu dans l'Antiquité parce que un côté remarquable, bien sûr, le tête chèvre. On supposait qu'il allait téter les chèvres, ce qui était absolument faux, mais simplement, il utilisait les zones de pâture pâturage des animaux, des chèvres ou autres animaux pâturants, parce qu'il y a beaucoup d'insectes la nuit autour de ces animaux.
Alors, on le retrouve, on en parle aujourd'hui car on le retrouve en nombre assez important hein, sur notre territoire. Alors pas en ce moment, pas en plein hiver, mais une partie de l'année, où est-ce qu'on peut en voir ?
Alors c'est un oiseau, j'ai un petit peu dévoilé cela tout à l'heure, c'est un oiseau qui est essentiellement forestier, aussi dans les Landes, donc il va fréquenter beaucoup les coupes forestières, les zones un peu plus claires, les zones un peu éclaircies, où il y a une végétation arbustive, voilà, des aubépines, des troènes, etc., des mousses, des lichens. Alors, dans notre région, on a une énorme chance dans notre région, dans les Pays de Mont, notamment avec la grande forêt domaniale de Mont, où c'est certainement un des secteurs en France où on a les plus fortes densités. Hein, donc, ils recherchent plutôt des coteaux, des dunes sèches avec une végétation un petit peu, voyez, un petit peu aride. Et il va aller bien sûr rechercher ces insectes dans la partie forêt, dans les clairières, dans les allées, mais aussi il va aller à découvert. Par exemple, en bordure de la forêt de Mont, eh bien il y a le marais breton, et dans le marais breton, il y a beaucoup d'insectes. Donc il va pouvoir trouver une gamme d'insectes la nuit entre le marais breton, les zones un petit peu de culture intermédiaire et la forêt elle-même.
Alors ça, ce sera à partir du mois de mai hein, vers le Pays de Mont, mais en ce moment, il est où exactement en hiver ?
Alors voilà, c'est un oiseau migrateur. En ce moment, on est en hiver, il est en Afrique subsaharienne. Hein. Il dépasse le Sahara, c'est un grand migrateur. Et il va revenir dans nos contrées au mois de mai. Début mai. Ce sont les mâles d'abord qui arrivent, qui vont prendre possession de leur territoire.
Et les femelles vont suivre ?
Les femelles vont arriver rapidement et vont se retrouver avec les mâles. Les couples sont stables, bien formés et on constate une certaine fidélité, bien sûr, entre mâles et femelles.
Alors c'est un oiseau qui est aussi nocturne essentiellement. Vous évoquez même ses mœurs secrètes.
Oui, des mœurs secrètes parce que, en fait, comme c'est la nuit, bon, ben, on ne peut pas vraiment l'observer. Moi, j'ai eu la chance de l'observer parce que j'ai fait beaucoup de travail de nuit pour des espèces nocturnes au niveau des oiseaux. Hein, je parlais de la bécasse des bois tout à l'heure. Donc, j'ai souvent rencontré l'engoulevent d'Europe. Mais pour n'importe qui, c'est pas évident. On va pas sortir le soir particulièrement à la nuit tombée ou au crépuscule. C'est pas très courant. On va pas forcément aller dans les forêts. D'ailleurs, dans les observateurs que j'en parfois, on me pose la question un peu que je trouve un peu naïve. Mais comment, François, tu n'as pas peur la nuit quand tu restes tout seul ? Voilà, c'est pour dire un peu que il y a une espèce de réticence pour aller en forêt. Alors, sans aller au cœur de la forêt, en forêt de Mont, par exemple, on peut rester à l'oreille de la forêt. On peut être dans une des premières allées parce qu'il fréquente aussi les allées. Hein. Trouver un endroit un peu plus clair où il y a eu une coupe forestière, une zone un petit peu dégagée, toujours avec des grands arbres, il y avoir des grands pins, et voilà. Et on peut l'observer. Et surtout, on peut l'entendre. On va parler de sa voix, de ses chants, de ses cris qui sont extraordinaires.
On va en parler justement dans une deuxième partie. Que mange-t-il ? Que chante-t-il ? Que crie-t-il ? On fait une petite pause et on revient avec vous, François Gosman.
Je veux pas que le temps passe. Je sens que je t'oublie un peu. Bientôt y aura plus une trace de ce qu'on était tous les deux. Souvent j'ai fait des blackouts trop alcoolisés. J'ai fait couler des larmes et ça je préfère oublier. Mais là j'ai pas décidé. Depuis que tu m'as quitté, j'ai peur de tout oublier. D'oublier qu'on s'est aimé. L'odeur de tes draps froissés s'efface petit à petit. Et quand on me demande si je te connais, moi je sais plus dire oui. Mon cerveau fait le tri. Est-ce que mon cœur aussi? Moi je veux pas que le temps passe.
aujourd'hui sur 9FM avec François Gossmann de la LPO. Nous sommes dans la biodiversité samedi et nous découvrons un oiseau, l'engoulevent. Vous en avez forcément croisé ici en Nord-Ouest Vendée, notamment vers le Pays de Mont. Petit oiseau nocturne qui aime la forêt, qui s'alimente aussi justement le soir, la nuit, François.
Oui, tout à fait. Il commence à rechercher ses proies au coucher du soleil. Et puis ensuite, au cours de la nuit, au coucher du soleil, il va souvent juste au crépuscule, donc pousser ses cris, un cri très 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 particulier, stridulant. C'est absolument unique, hein. Ça fait partie des particularités de cet oiseau, vraiment un chant stridulant qu'on qualifie souvent d'un peu de mobilette, hein, le bruit d'une mobilette, hein, un bruit stridulant vraiment unique qu'on reconnaît, qu'on entend jusqu'à 500 mètres, 400, 500 mètres sans problème, parfois même un peu plus.
Alors, on va l'écouter là. C'est effectivement, c'est pas un chant, hein. En tout cas, ça ressemble pas du tout au chant harmonieux des oiseaux qu'on imagine habituellement. Qu'est-ce qu'il fait dans ce cri, à votre avis?
Alors, ce cri, c'est le soir, le mâle sur son territoire, avant de s'envoler pour aller chasser, il va marquer son territoire. C'est-à-dire qu'il va donner un signal aux autres mâles engoulevants du secteur, de la forêt notamment, et pour leur dire, ben, là, je suis chez moi. Attention, je suis chez moi, donc c'est une marque de territoire. Ce que font aussi les petits passereaux, hein, qui chantent très harmonieusement. Alors, lui, c'est pas très harmonieux, c'est très particulier, mais c'est vraiment extraordinaire. Il chante comme ça, le bec est fermé, il fait penser à un animal un peu ventriloque, vous voyez. Et il pousse aussi quelques cris, des huit, huit. Et avec la femelle, il y a des cris aussi un petit peu plus rugueux, des cris aussi cruit, cruit, ouais, un peu plus guttural, mais c'est vraiment la marque de fabrique du l'engoulevent, c'est ce chant aussi, une des marques de fabrique, c'est ce chant très particulier, la mobilette, comme on dit.
La mobilette, autre marque de fabrique, vous l'avez évoqué, c'est son vol. Alors déjà, il capture ses proies la nuit, souvent en plein vol.
Oui, beaucoup de captures en plein vol. Et son vol est très particulier parce que c'est un vol très silencieux. Et tout à l'heure, j'ai dit des ailes fines, des grandes ailes, un corps très profilé. Voilà, c'est un oiseau qui est fascinant. Quand on le voit pour la première fois, on se dit mais est-ce possible que ça existe? Il a un vol, c'est un peu comme un oiseau mécanique par moment parce qu'il a des battements un peu saccadés, mais très silencieux. Il vole aussi les ailes en V, il plane, dans la parade, il fait des pirouettes, il descend un petit peu en parachute en tournant, il se pose sur une branche, il repart, c'est fascinant, absolument fascinant. Et d'ailleurs, tous les observateurs que j'ai emmenés comme ça, qui connaissaient même parfois pas les oiseaux, ont été vraiment étonnés quoi par cette attitude, par ce comportement. Le vol, voyez, pour le vol, c'est un vol de nocturne, comme les chouettes, comme les hiboux. Mais il a quelque chose de plus dans le sens où il semble beaucoup plus maîtriser l'air, le vol aérien, il le maîtrise absolument merveilleusement.
Et ça le distingue vraiment, ce vol silencieux aussi, des autres oiseaux ?
Non, il y a aussi d'autres oiseaux qui ont ce vol très silencieux. Je parlais des chouettes, des hiboux, la bécasse aussi a un vol silencieux. Ils ne sont pas très nombreux, en fin de compte, il n'y a pas tant que ça d'espèces. Donc, mais l'engoulevent, il est rapide, il a un vol aussi très glissé, vif, il vire beaucoup, à droite, à gauche et tout, il est très adroit et c'est quand même une de ses particularités. Il est, inimitable et on ne peut pas le confondre, voilà, inconfondable. Aussi.
Alors, vous l'évoquiez en première partie d'émission, il mange essentiellement des insectes.
Oui, des insectes. Alors des gros insectes, les papillons notamment, les papillons de nuit, aussi des coléoptères, des moustiques. Voilà, c'est un bon allié pour nous puisque les moustiques sont pas forcément nos amis. Hein, des tipules aussi, des gros insectes par moment de type diptère donc.
Et donc c'est l'essentiel de son alimentation. J'ai encore plein de questions pour vous, François Gossmann de la LPO. Je sais que vous avez aussi beaucoup de réponses. On revient avec vous avec une dernière pause musicale avant la fin de l'émission.
C'est l'heure où les videurs deviennent gentils, même avec les gens qui font peur, ils sont pas beaux la nuit. Ces pieds qui collent me donnent le sentiment qu'il faut qu'on dorme maintenant. Quand dans la boîte c'est moi, t'étais pas là, que c'est bientôt les lacs du Connemara. Je tente de danser pour plus penser mes pensées, le passé. Je fais comme si j'avais l'habitude de tout ça. Je la sens la solitude sans toi. Quand
like it opens up the door. I was keeping close. It comes in waves and then it settles. Say it will end, but I know it won't. Well, I've been in a right mess, God, yes, since you left me here alone. Every time your name gets brought up, I get caught with the tears that will overflow.
Je fais comme si j'avais l'habitude de tout ça. Je la sens la solitude sans toi. J'avais l'habitude de tout ça.
Je la sens la solitude sans toi.
Dans la biodiversité samedi, le syndicat mixte de la baie de Bourgneuf avec notamment Julie Essager et évidemment son comité Ramsar nous invite aujourd'hui à parler de l'engoulevent, un oiseau migrateur. Il passe l'hiver bien au chaud, il reste quelques individus en ce moment en Vendée ou pas du tout?
Non, pas du tout. Ils sont tous partis en migration en août, début septembre au plus tard. Et donc, ils sont en Afrique subsaharienne. Ils sont au chaud là-bas. Il y a beaucoup d'insectes aussi pour passer l'hiver. Refaire des réserves aussi pour remonter vers le nord. Le vol de migration pour retourner vers les contrées où les oiseaux nichent, il faut beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Donc, ils se préparent pour revenir vers le mois de mai, début mai, mais ils partiront en avril. Le voyage de migration pour ces oiseaux-là, c'est quelques jours, quelques semaines, selon les individus.
Alors, quand ils partent et quand ils reviennent, ils sont en groupe, ils sont en grand groupe ou assez isolés?
Alors, en migration, c'est une migration plutôt isolée ou en petits groupes. Hein, l'aller ou retour à migration d'automne ou migration de printemps. Ensuite, très très rapidement, quand ils arrivent, par exemple ici en forêt de Mont ou dans les forêts et les boisements proches dans notre petite région, ensuite les mâles sont isolés, la femelle va arriver, ça sera des couples, voilà, avec un marquage de territoire, chacun chez soi, et il y aura pas de mélange, il y aura pas de groupe. On verra des petits groupes peut-être après à l'envol des jeunes.
Donc en duo. Fidèle à sa compagne et à son compagnon?
Oui, complètement. Les oiseaux sont fidèles à leur territoire. Le mâle, je disais donc, marque son territoire. La femelle le rejoint. Ils vont faire leur progéniture, hein, avoir les œufs, les couvées, les nichés, etc. Ça va se dérouler fin mai, juin, juillet.
Avant la reproduction et en vue de la reproduction, le mâle met en place une vraie parade, hein, comme beaucoup d'oiseaux d'ailleurs, pour séduire sa future compagne.
Oui, alors le cri très particulier, c'est aussi une marque de territoire, mais c'est aussi pour attirer la femelle, retrouver sa femelle ou retrouver une autre femelle s'il a besoin de renouvellement. Et ensuite, effectivement, pour la séduire, il va aussi faire des petits vols au-dessus d'elle. Il a des marques blanches sur la pointe des ailes et sur les rectrices, c'est-à-dire la queue, les côtés de la queue. La femelle, elle n'en a pas. Et ces marques blanches, en vol, il va les montrer. Il va les exhiber un peu pour séduire la femelle, pousser quelques cris. Elle aussi lui répond. Voilà. Et si tout va bien, eh bien, il y aura l'accouplement au sol, la plupart du temps.
C'est ce qui distingue aussi l'oiseau. Il n'y a pas de nid.
Oui, dans le monde des oiseaux, il y a quelques espèces comme ça qui ne font pas du tout de nid. Par exemple, chez nous, on a des faucons, par exemple le faucon casserelle, ben lui non plus ne construit pas du tout de nid, pond directement, mais lui, en ce qui concerne le faucon, dans un nid de pie ou de corneille par exemple. Par contre, pour l'engoulevent, ben l'engoulevent c'est au sol. Et donc au sol, que fait la femelle? Ben elle enlève deux trois petites brindilles, il y a une petite coupe qui se crée, et là elle va pondre deux œufs. La plupart du temps c'est deux œufs, c'est un ou deux œufs, jamais davantage.
Alors très vite, les petits poussins vont devoir être autonomes, parce que très vite aussi, d'autres poussins vont arriver.
Alors oui, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce nid, il est installé, ce nid entre guillemets, hein, donc il est installé quand même au sol, dans un milieu forestier, arbustif, herbacé, très camouflé. Et cet oiseau, donc la femelle qui a telle couve, aussi le mâle un petit peu, qui participe à la couvaison, sont très homochromes, on les voit pas. Hein. Moi-même, j'ai eu l'occasion de trouver des nids d'engoulevent, je les ai... En fait, dans mon travail sur le terrain, j'ai fait envoler fortuitement un adulte comme ça, et après j'ai dit ah là voilà il y a deux œufs, et j'ai voulu ensuite revenir essayer de le retrouver. J'avais pris des repères et même de cette façon-là j'ai eu du mal à le retrouver. Alors les deux œufs sont couvés pendant environ 17 jours à 20 jours, et ensuite les poussins qui naissent avec du duvet. Hein, alors on dit ce sont des faux nidifuges. Les nidifuges, ce sont des petits poussins, donc d'oiseaux, qui naissent avec du duvet. À l'opposé des nidicoles, qui, comme les moineaux, par exemple, naissent nus, hein, sans duvet du tout, et le duvet va arriver après. Donc, ils naissent avec ce petit duvet, et c'est au bout de 15, 17, 20 jours qu'ils vont être à même de voler. Et ce sont les adultes qui leur apportent des insectes, soit des insectes directement qui vont prendre du bec à bec, soit des petites boules de régurgitées, hein, d'insectes, une petite boule d'insectes qui vont régurgiter et que le poussin, l'un des deux poussins, va avaler.
Mais très vite, ils vont avoir des petits frères ou petites sœurs.
Alors, ce qui est extraordinaire chez l'engoulevent, c'est effectivement, alors que les deux jeunes ne sont encore pas volants, hein, ils vont avoir par exemple 14-15 jours, et bien la femelle pond à nouveau deux œufs dans un autre endroit, à proximité, pas très loin. Le mâle, lui, va continuer de nourrir les deux jeunes. Il va aussi, de temps en temps, relayer la femelle sur les œufs, les autres œufs, l'autre couvée, pour que la femelle aille se nourrir. Et tout ça va se faire un petit peu donc de façon un peu superposée. Hein. On a deux jeunes qui vont voler et qui sont nourris, et puis une couvée, donc deux œufs dans un petit coin de la clairière forestière, qui permettront aussi de donner à nouveau des jeunes.
Et donc on a vraiment un vrai couple parental, hein, qui s'occupe à la fois de la couvaison et de l'éducation.
Oui, complètement. Il faut savoir quand même que chez l'engoulevent, le taux de réussite des œufs de la couvée est très faible. Hein. Une étude anglaise a mis en évidence qu'il n'y avait que 15% des œufs couvés qui donnaient des poussins. Parce qu'il y a de nombreux prédateurs, hein, vous le comprenez bien, c'est au sol. Il y a le renard, il y a la martre, il y a les reptiles aussi, qui peuvent aussi manger les œufs ou les poussins. Et donc de nombreux prédateurs, la chouette hulotte par exemple, ou l'épervier. Et donc on peut comprendre qu'il faille faire deux nichées, hein, deux couvées, deux nichées, pour que la survie de l'espèce soit correcte, se maintienne, que les effectifs se maintiennent. C'est ce que font les adultes. C'est vrai qu'ils se démènent, voilà, comme on le voit souvent dans la nature. C'est ce que moi, mon témoignage d'observateur, de naturaliste, d'ornithologue, c'est cela. C'est, je suis toujours épaté au printemps quand je vois à quel point les oiseaux, là en l'occurrence ces couples d'engoulevent, se démènent. Et avec apparemment une facilité d'ailleurs, beaucoup d'énergie, beaucoup d'entrain pour arriver à maintenir leur effectif, pour se reproduire, maintenir l'espèce.
Alors justement, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de la situation, hein, de l'espèce? Est-ce que c'est une espèce qui est menacée ou pas?
Alors c'est une espèce qui se porte plutôt bien, hein, qui est répartie... un petit peu dans toute la France, plutôt dans les zones quand même qui sont bien ensoleillées et bien réparties aussi en Europe. Elle recherche quand même des coins, plutôt des secteurs, des zones de nature plutôt sauvages, hein, je parlais des forêts, donc dans des secteurs plutôt préservés des épandages de pesticides par exemple, hein, parce que vous comprenez bien qu'ils se nourrissent d'insectes et que si on traite des vastes zones, c'est ce qu'on fait en culture intensive, hein, malheureusement on a des grandes zones qui sont traitées où il n'y a plus d'insectes, hein, beaucoup ou un insecte. Il y a eu des études remarquables à ce sujet. Donc l'engoulevent, lui, va sélectionner ce qui reste de plus sauvage. Dans notre région, ben, on a une chance, là, tout près, là, le marais breton, la forêt de Mont, les petits coteaux aussi de bocage, pas très loin, ben, tout ça, c'est très favorable pour l'engoulement. Donc, les populations en France, c'est entre, vous voyez, si je donnais une fourchette assez grossière, 25 000, 45 000 couples en France, ce qui est pas mal. Hein. Et au niveau européen, ben, ils se portent plutôt bien. Et je parlais de mon expérience dans l'Est de l'Europe, c'est beaucoup dans l'Est de l'Europe, dans les forêts taïga du Sud, forêts mixtes, dans l'Est nord-est de l'Europe, que j'ai fait le plus d'observations. Là-bas, les densités sont extrêmement élevées.
J'avais une avant-dernière question, justement, sur l'observation. Vous êtes donc un passionné depuis toujours. Qu'est-ce que vous nous conseillez, nous, les profanes, pour approcher des oiseaux, les regarder, les écouter? Est-ce que vous avez des petits conseils à nous donner?
Oui, là, je peux que vous encourager à essayer d'observer l'engoulevent. C'est... Le plaisir et la fascination garantie à l'observation. Donc, il faut se rendre en bordure de forêt, dans une allée forestière, près d'une zone un peu ouverte, le soir, attendre au coucher du soleil. Et dès le coucher du soleil, on va pouvoir entendre d'abord les cris, le chant de l'engoulevent, hein, ce bruit de mobilette strident, hein, une espèce de cri très original. Et ensuite, avec un peu de chance, eh bien, on pourra le voir voler. Voilà. Alors, il faut y aller fin mai, début juin, tout le mois de juin, début juillet, et donc, encore une fois, au crépuscule. Être patient. Parfois, il y a un petit peu de moustiques, mais il faut être patient et on peut vraiment bien l'observer.
Et profiter de ce beau spectacle. Merci beaucoup, François Gosman. J'ai toujours une question en fin d'émission pour les invités de cette émission. C'est sur la défense de la biodiversité, son importance, évidemment. Pourquoi la préserver? Selon vous, à côté de quelle action ne doit-on surtout pas passer, justement, pour préserver la biodiversité?
Voilà, c'est quelque chose certainement de crucial. On parle beaucoup de la lutte contre le réchauffement climatique, d'économiser l'énergie, éviter d'envoyer du CO2 et du monoxyde de carbone dans l'atmosphère, c'est très important, mais comme vous le dites si bien, préserver la biodiversité, préserver les espèces, c'est crucial. Je pense que ce qui est important, c'est d'arriver petit à petit. Là, on parlait justement de l'engoulevent qui a besoin de petites proies animales, d'insectes, d'invertébrés. C'est d'essayer de le moins possible, et l'idéal, ce serait vraiment de ne pas le faire du tout, de mettre dans la nature des produits de type pesticides. Alors, il faut qu'il y ait cette transition, il faut qu'il y ait petit à petit cette autre façon de cultiver, de regarder. Déjà, pour les jardins, les jardiniers, ils ont compris que il y avait d'autres techniques pour éviter, par exemple, qu'il y ait telle ou telle maladie, tel ou tel insecte. Hein, on a des techniques, tout ça, c'est important pour préserver la biodiversité, faire en sorte qu'il ne soit pas empoisonné et aussi qu'il y ait toujours cette diversité de proies, cette diversité d'animaux, d'insectes, d'oiseaux dans la nature. Éviter un maximum de mettre n'importe quoi, de jeter n'importe quoi, qui va des produits ensuite qui vont aller dans les ruisseaux, dans les rivières, dans la mer. Et au final, toute la chaîne alimentaire, nous compris les humains, on sera impacté, on sera touché par ces pollutions. Il faut aller vers cet élan. C'est un élan qui doit se faire en douceur et en très bonne compréhension.
Merci beaucoup François Gosman, merci pour toute cette présentation passionnée, passionnante. On va la retrouver en podcast, hein, sur le site et l'appli de Nov en rubrique justement la biodiversité. Ça